Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'infos. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Se dirige-t-on vers une pénurie de vaccins contre le Covid ? Pfizer annonce que les livraisons de doses vont ralentir en Europe pour les prochaines semaines. La France va devoir ajuster le rythme des vaccinations. Problématique, d'autant que la campagne s'accélère. 71 000 injections aujourd'hui, ça progresse, sauf dans les EHPAD. Seuls 10% des résidents ont été vaccinés, c'est une information Europe 1. La réponse du gouvernement à la détresse étudiante, réouverture des facs au compte-gouttes et prise en charge des consultations chez les psychologues. Pas touche à Carrefour, Bercy s'oppose au rachat du géant de la grande distribution par un groupe canadien. Son patron a été reçu au ministère de l'économie. Bruno Le Maire lui a dit non merci. Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois dans le viseur de la justice, le parquet national financier a ouvert une enquête et s'intéresse aux activités de conseil de l'ancien président auprès d'une société russe. Dans ce journal également, ce mystère de plus dans l'affaire Delphine Jubillard, le compte Facebook de l'infirmière disparue s'est brièvement activé. L'exploit d'une équipe de chirurgiens lyonnais, ils viennent de greffer deux épaules et deux bras sur un homme amputé suite à un accident. Et puis le foot, 20e journée de Ligue 1, Montpellier affronte en ce moment l'AS Monaco, Romain Boselli.
Effectivement, et les 22 acteurs qui reviennent sur la pelouse. 2-0 à la mi-temps pour l'AS Monaco. But signé Kevin Volland à la 24e minute. Et Ben Yedder a doublé la mise pour l'AS Monaco de la tête à la 35e. Les Monégasques bien partis dans cette rencontre.
A tout à l'heure, Romain. La météo, prudence. Tous les départements des Hauts-de-France et de l'Île-de-France sont ce soir en vigilance orange, neige, verglas. Jusqu'à 10 cm attendu en pleine demain, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris craint elle aussi une pénurie de vaccins. Elle a clôturé ce soir en baisse, moins 1,22% à 5611 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamot de Boursier.com. Et puis l'interview Echo dans 20 minutes. Le nombre de créations d'entreprises a encore franchi un record l'année passée. Comment l'expliquer? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité Philippe Vechter, chef économiste de Natixis.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc un contretemps au plus mauvais moment. Alors que la campagne vaccinale en France s'accélère enfin, le laboratoire Pfizer a révélé, comme si de rien n'était, que les livraisons de ces vaccins allaient ralentir en Europe dans les prochaines semaines. Immédiatement, plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, ont exprimé leur inquiétude. Il faut dire que cette annonce soulève beaucoup de questions. Combien de doses en moins? Va-t-on vers une pénurie? Et surtout, pourquoi ce ralentissement maintenant, Anne Le Gall?
Alors c'est un ralentissement qui ne touche que l'Europe, pas les États-Unis, en raison de travaux temporaires dans l'usine de Peurs en Belgique, et c'est aujourd'hui la seule qui fournit ce vaccin à toute l'Europe. Ces modifications dans l'usine visent à terme à augmenter le rythme de production, mais pendant quelques semaines, entre fin janvier et début février, le rythme de livraison de vaccins anti-Covid va ralentir. Pfizer assure qu'il livrera l'intégralité des doses prévues pour l'Union européenne à la fin du premier trimestre comme prévu, mais plus à la même cadence. Cela veut dire notamment que les 520 000 doses hebdomadaires attendues par la France n'arriveront pas selon le calendrier prévu. Le gouvernement assure que ce contretemps industriel ne remet pas en cause le déploiement global de la campagne vaccinale. Nous avons déjà reçu 1,5 million de doses de vaccin Pfizer et près de 400 000 Français seulement ont été vaccinés. Les stocks vont ainsi permettre de poursuivre les injections, mais il faudra ajuster le rythme en fonction de celui des livraisons qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr, la France peut aussi s'appuyer sur les stocks de vaccins Moderna, mais ils sont et resteront de toute façon plus faibles, seulement 52 000 doses reçues à ce jour.
Merci Anne Le Gall. Moins de vaccins donc en perspective dans les semaines à venir. Voilà qui ne va pas rassurer Anne Hidalgo qui, avant même cette annonce, se plaignait d'un nombre insuffisant de doses dédiées à la capitale, 10 000 par semaine. À ce rythme, il nous faudra 8 mois pour vacciner nos plus de 75 ans, a pesté tout à l'heure la maire de Paris. Là, on parle de la campagne grand public qui débute lundi. En attendant, 389 000 Français ont reçu une injection depuis le début de la campagne. 71 000 de plus qu'hier, ça progresse, mais qui sont réellement les populations vaccinées? Les résidents d'EHPAD qui devaient être initialement prioritaires ou les soignants de plus de 50 ans? Victor Delande, vous avez obtenu les chiffres et c'est une information Europe 1, ça coince sérieusement dans les maisons de retraite.
Oui, seuls 10% des résidents des EHPAD ont été vaccinés depuis la fin du mois de décembre. Un peu plus de 74 000 personnes vaccinées sur un total de 700 000 résidents dans les EHPAD de toute la France. Les 244 000 autres personnes vaccinées sont des soignants de plus de 50 ans, mais aussi des pompiers, des aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. Ce qui veut dire que une personne sur cinq vaccinée est un résident d'EHPAD. C'est peu. Le recueil du consentement, souvent pointé du doigt, est l'une des raisons de cette lenteur. Mais le gouvernement promet que la campagne de vaccination va considérablement accélérer dans les EHPAD et ce, dès lundi prochain. En visite dans un centre de vaccination ce matin à Troyes, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré qu'il y avait déjà 833 centres actuellement ouverts dans tout le pays. Le ministre a également fixé de nouveaux objectifs. Les stocks de vaccins actuels permettront de vacciner, dit-il, jusqu'à 2,4 millions de Français d'ici la fin février. Nous pourrons même arriver à 4 millions de Français vaccinés, a-t-il poursuivi, si et seulement si le vaccin AstraZeneca est validé d'ici là par l'Agence européenne des médicaments.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Demain 18h, tout le monde à la maison, couvre-feu avancé à l'ensemble du pays, nouvelles restrictions qui agacent certains élus. Ils devraient plutôt s'estimer heureux car l'exécutif a choisi l'option light des recommandations du Conseil scientifique. Dans leur dernier avis, les experts préconisaient en plus du couvre-feu des confinements localisés et une limitation des déplacements entre régions. Eux sont confinés depuis de longs mois dans leur studio ou résidence universitaire. Les étudiants vivent très mal les restrictions sanitaires. La situation est même très inquiétante. Près d'un tiers des 18-25 ans souffrent de dépression, selon une étude de Santé publique France. Hier, le Premier ministre a promis une reprise des cours à partir du 25 janvier, mais uniquement pour les travaux dirigés de première année et encore en demi-groupe. Une timide ouverture qui appelait éventuellement à d'autres annonces. C'est en tout cas ce qu'espéraient les syndicats étudiants qui ont rencontré ce matin Jean Castex et la ministre de l'Enseignement supérieur. Eh bien, ils en ont été pour leurs frais, Virginie Riva.
Effectivement, et c'est vraiment la déception du côté des étudiants. Ils s'attendaient à des annonces ce matin sur un éventuel retour en présentiel à partir de la rentrée du deuxième semestre. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait donné la date du 4 février pour une reprise progressive de tous en présentiel. Pour Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, le gouvernement est totalement déconnecté des attentes du monde étudiant.
Pas grand-chose n'a bougé entre hier et aujourd'hui. Il y a quelques petites avancées, mais on est bien loin des attentes des étudiants. Là, les étudiants veulent reprendre les cours en présentiel parce que ça fait presque 8 mois que tout ce qu'on fait, c'est suivre des cours sur Zoom et écouter nos profs parler et recopier ce qui est dit. Enfin, c'est pas une vie et c'est pas une manière d'étudier. Donc, il faut absolument trouver un moyen pour qu'on puisse reprendre en partie les cours en présentiel.
Seule bonne nouvelle pour suivre les organisations syndicales, le chèque santé mentale, un chèque pré-rempli pour pouvoir consulter un psychologue en ville sans engager de frais. Mais difficile pour autant de se réjouir d'un tel dispositif. L'UNEF appelle d'ailleurs à manifester le 26 janvier dans toute la France.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. L'idée a un temps été évoquée en France, puis écartée face au tollé qu'elle avait provoqué. Le passeport vaccinal a en tout cas l'aval de Bruxelles. La Commission européenne se dit favorable à un certificat de vaccination européen. Objectif, relancer l'industrie du tourisme en Europe terrassée par la pandémie.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
C'est un dossier symbolique pour le gouvernement. Carrefour, fleuron de la grande distribution et premier employeur privé de France, pourrait passer sous pavillon canadien. On vous l'a raconté ces derniers jours sur Europe 1. Le géant français a été approché en vue d'un rachat par le groupe Couche-Tard. Tout se passait bien, les discussions étaient même bien avancées, mais c'était sans compter l'opposition ferme de Bercy, pas touche à Carrefour. Emmanuel Dutheil, vous nous révélez ce soir que c'est en substance ce qu'a dit tout à l'heure Bruno Le Maire au patron de Couche-Tard.
Oui, hein, Alain Bouchard, qui est le patron de Couche-Tard, était cet après-midi dans le bureau de Bruno Le Maire. Et selon l'entourage du ministre, ce dernier a été très clair. Il lui a dit que ce ne serait pas possible. L'État, sans être actionnaire de Carrefour, a des moyens pour bloquer cette opération. La distribution alimentaire des Français a été ajoutée l'an dernier à la liste des secteurs pour lesquels la France peut dire non à des investissements étrangers. Du côté de Bercy, on critique aussi fortement la façon de faire. La direction de Carrefour a oublié de prévenir le ministre et pourtant les occasions n'auraient pas manqué. Ils sont copains de promo et ont déjeuné ensemble quelques jours avant, mais bizarrement, Alexandre Bompard, patron de Carrefour, n'a rien dit, révèle l'entourage du ministre. Du côté des deux protagonistes, on commence à se rendre compte que ce ne sera pas simple de contourner cette oucase. Il y a eu des discussions et des rencontres ces derniers jours entre les deux parties. On ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain avant d'avoir discuté, dit-on côté canadien, mais un rachat pur et simple semble ce soir quand même bien compromis.
Merci Emmanuel Duteil. On vous retrouve Emmanuel dans quelques minutes pour l'interview Écho. Eurostar est dans une situation très critique. C'est l'alerte lancée aujourd'hui par le PDG de SNCF Voyageurs. La compagnie qui assure le trafic ferroviaire entre Londres et le continent a perdu 85% de ses passagers l'année passée. Nicolas Sarkozy, de nouveau dans le viseur du parquet national financier. On a appris aujourd'hui qu'une enquête a été ouverte pour trafic d'influence, mais aussi blanchiment de crimes ou délits. Chloé Triomphe, cette fois, ce sont les activités de conseil de l'ancien président de la République qui intéressent la justice.
Oui, c'est désormais l'activité professionnelle principale de l'ancien chef de l'État qui lui rapporte de substantiels revenus avec des clients partout dans le monde et notamment des clients russes, comme dans cette affaire qui occupe les magistrats du parquet national financier depuis l'été dernier, selon nos confrères de Mediapart. Alors dans ce dossier, les enquêteurs veulent savoir si Nicolas Sarkozy a exercé ses activités de conseil en tant que simple consultant, ce qui est parfaitement légal, auprès de la société d'assurance Réseau Garantia, contrôlée par 2 milliardaires russe ou s'il a pu s'adonner à des pratiques de lobbying potentiellement délictuelles pour leur compte. Le contrat qui intéresse les enquêteurs se montrait à environ 3 millions d'euros, contrat passé en 2019 et pour lequel Nicolas Sarkozy aurait déjà perçu 500 000 euros. L'ouverture de cette enquête a été motivée par un signalement de Tracfin, l'agence de lutte contre la corruption financière qui siège à Bercy, auprès des magistrats. Une enquête qui vient allonger les ennuis judiciaires de l'ancien chef de l'État qui sort à peine du procès des écoutes face, là encore, aux accusations du parquet national financier.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Le mystère reste entier autour de la disparition de Delphine Jubilard, cette infirmière disparue depuis un mois dans le Tarn. Elle est battue et les recherches n'ont toujours rien donné. Mais des amis de la jeune femme ont signalé une brève activation de son compte Facebook. S'agit-il d'une preuve de vie, d'un bug informatique ou d'un piratage? Écoutez les précisions de maître Philippe Pressec, c'est l'avocat des proches de Delphine Jubilard.
Mes clients sont membres d'un groupe Facebook et sur ce groupe est apparu un message émanant du compte Facebook de Delphine Jubilard, qui a ému beaucoup de gens. Évidemment, mes clients ont immédiatement pensé que c'était une façon pour elle de montrer qu'elle était là, qu'elle était vivante. Il y a eu des likes, il y a eu des messages, mais qui n'ont été sans réponse. Et puis ensuite, tout a été supprimé. Mais en réalité, c'est un message qui est entièrement blanc. Il semble qu'il soit impossible de publier un message vide sur Facebook. Donc c'est l'hypothèse du bug qui doit prévaloir. Cela dit, dans une affaire où nous sommes confrontés à un mystère totalement affolant sur la disparition d'une personne, que vienne aujourd'hui se greffer un deuxième mystère sur un message qui apparaît et que Facebook se mette à bugger juste sur le compte de Delphine Jubilard est absolument incroyable.
L'avocat des proches de Delphine Jubilard au micro européen de Benjamin Peter. Les corps des trois marins pêcheurs qui étaient portés disparus au large du Calvados ont été repêchés. Ils ont été retrouvés en début d'après-midi par des plongeurs dans l'épave de leur chalutier. Ce dernier a été hier soir victime d'une avarie et il a coulé alors qu'il était en train d'être remorqué. Venons-en maintenant à cet exploit médical, une greffe d'épaule et de bras sur un homme qui avait été amputé après un accident. C'est une équipe de chirurgiens lyonnais qui a réalisé cette première mondiale et c'est véritablement, on peut le dire, une prouesse, Romain Oquet.
Oui, car jamais une greffe n'avait inclus en même temps deux bras et deux épaules. Une opération d'une complexité inédite, saluée par Éric Lenoble, chirurgien et membre de l'Institut Main-Épaule à Paris.
C'est quand même des gros segments qui ont été greffés, les épaules étant quand même des zones anatomiques un petit peu compliquées. On a des muscles, on a de la peau, on a des vaisseaux. Le contact entre le greffon et le receveur et le patient est une surface anatomique beaucoup plus importante. Cette opération inédite est plutôt l'aboutissement des connaissances qu'on a acquises jusqu'à présent. C'est un exploit logistique, c'est un exploit d'organisation.
Car rendez-vous compte, la greffe a tout de même demandé 15 heures de travail au bloc opératoire. Le patient, c'est un Islandais de 48 ans, un électricien amputé des deux bras après s'être électrocuté sur une ligne à haute tension. Deux jours après l'intervention, l'homme est dans un état stable. L'opération a quand même mobilisé les équipes de 5 hôpitaux lyonnais différents, plusieurs dizaines de soignants. Il faut dire que la ville compte parmi les meilleurs spécialistes en matière de greffe et ils n'en sont pas à leur premier exploit. En 1998, c'est déjà à Lyon que l'équipe du professeur Dubernard a réalisé la première greffe de main au monde.
Merci Romain Hoquet. Autre exploit du jour, celui de Stefan Peter Hansel. Le Français a remporté ce matin son 14e Dakar, le 8e en catégorie auto. Il y a 30 ans tout juste, c'était au guidon d'une moto qu'il avait remporté le mythique Rally Raid. Une édition 2021 malheureusement endeuillée. On a appris ce matin le décès du Français Pierre Cherpin. Le motard avait lourdement chuté lors de la 7e étape. Il est décédé lors de son transfert entre l'Arabie Saoudite et la France. On passe au foot avec ce match avancé de la 20e journée de Ligue 1. Montpellier est en train d'affronter l'AS Monaco. Romain Boselli, vous êtes en direct du stade de la Mosson et pour l'heure, avantage au Monégasque.
Oui, très clairement, 2-0 toujours pour l'AS Monaco dans cette partie. C'est reparti depuis 14 minutes en seconde période. Deux buts signés par le duo d'attaque de l'AS Monaco, Kevin Volland. D'abord à la 24e après une reprise sur la barre transversale de Ben Yedder. Et c'est Ben Yedder qui a doublé la mise pour l'AS Monaco à la 35e, but de la tête pour l'attaquant monégasque. Depuis, Montpellier essaye de sortir la tête de l'eau, mais c'est compliqué pour cette équipe de Montpellier ce soir. Monaco, qui on le rappelle, reste sur 3 victoires et un match nul en Ligue 1. Une bonne dynamique qui est en train de se confirmer ce soir encore à la Mosson. Il reste un petit peu plus d'une demi-heure maintenant aux Montpellier pour réagir dans cette partie. Eux qui n'ont plus gagné en Ligue 1, en championnat, depuis près de 2 mois ici à la Mosson. Les joueurs de Der Zakarian qui sont dans le dur ce soir. Il va falloir absolument réagir, il en reste une demi-heure.
Merci Romain Boselli, Romain que l'on retrouvera à la fin de cette édition. J'ajoute que le match Lorient-Dijon prévu dimanche a été reporté. Plus de 10 joueurs du club breton étant positifs au Covid. Et puis les skippers du Vendée Globe aussi ne connaissent pas la distanciation sociale. Classement toujours aussi serré en tête de la course. Au dernier pointage, Charlie Dalin devance de seulement 50 km son dauphin Louis Burton. Boris Herman complète ce podium très provisoire. La météo, prudence, une nouvelle fois les intempéries s'enchaînent sur la moitié nord du pays. Tous les départements des Hauts-de-France et de l'Île-de-France ont été placés en vigilance orange neige-verglas. Anissa Haddadi, il va donc y avoir un nouvel épisode de neige demain.
Oui, c'est une nouvelle perturbation, Julien, qui arrive par le nord-ouest demain matin et qui va toucher une grande partie du pays, en tout cas une grande partie nord, des Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, jusqu'au centre en passant par la région parisienne. Il neige demain matin avec 3 à 10 cm attendus en plaine. Attention, les températures seront très froides demain matin et le risque de verglas est donc très important sur ces régions. À l'est, la neige arrivera dans la nuit de samedi à dimanche. On aura l'occasion d'en reparler sur Europe 1. En Auvergne, le temps est très couvert avec quelques petits flocons. Au bord de l'Atlantique, là c'est un ciel aussi chargé, mais de l'humidité avec quelques petites averses. Et puis au bord de la Méditerranée, le ciel alterne entre nuages et éclaircies, mais Mistral et Tramontane soufflent toujours très fort demain. Alors les températures le matin, elles sont très froides, moins 8 à Metz, moins 7 pour Nancy, moins 6 à Belfort, moins 4 à Auxerre, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 1 pour Paris, 2 degrés à Marseille et jusqu'à 6 degrés à Brest. Et puis au meilleur de la journée, comptez 1 à 13 degrés, 1 pour Strasbourg, à l'est, 7 à Paris et jusqu'à 12 degrés pour Brest et Toulon.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Le nombre de créations d'entreprises a encore franchi un record l'année passée. Comment l'expliquer? Eh bien, c'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité Philippe Wächter, chef économiste de Natixis. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à tous. L'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine la semaine en baisse en raison des craintes de retour de l'inflation aux États-Unis.
Oui, ça recule assez nettement hein, sur les indices américains. On est en baisse de 0,57% sur le Dow Jones, 30 814 points. Le Nasdaq perd 0,87%, 12 998 points. Une baisse donc assez nette. Le projet de plan de relance budgétaire de 1900 milliards de dollars annoncé par Joe Biden la nuit dernière a fait se tendre les taux d'intérêt sur les craintes de résurgence de l'inflation. 1000 milliards de dollars d'aides directes sont prévus pour les ménages américains avec des chèques de 1400 dollars versés directement. L'allocation chômage sera aussi augmentée à 400 dollars par semaine. Donc tout cela agite le marché avec des baisses sur tous les secteurs, hein, en particulier les technologiques qui redescendent d'un cran. Apple, moins 1,3%, $127.14. On a aussi Microsoft, moins 0,1%, Amazon, moins 0,7%, IBM, moins 0,4%, Twitter perd encore du terrain, moins 1,3% à $45.18, Intel, moins 2,8%, Tesla aussi perd 2% à $826. Les banques en baisse. JP Morgan, moins 1,8%, $138.64, malgré un bénéfice net de plus de $12 milliards au quatrième trimestre. Le pétrole recule aussi de près de 3%. Il retombe, il était bien remonté. $52.20 le baril de Brent. Exxon, du coup, perd 4,8%, $47.89. Et puis, l'euro revient vers les 1,20 face au dollar.
Retour en France où la bourse de Paris a clôturé et en forte baisse après les annonces de retard de livraison des vaccins Pfizer.
Oui, ça s'est accéléré dans l'après-midi, hein. Moins 1,22%, 5611 points. Les 5600 points ont quand même été préservés en clôture. Les craintes concernant les délais de livraison des vaccins Pfizer ont pesé clairement sur la tendance. On a donc des baisses très nettes sur les groupes industriels en particulier qui sont sensibles à l'activité économique. Manitou, le fabricant de nacelles, moins 4,5%. Plastivaloir, moins 4%. Alstom, moins 4% aussi. Renault a encore reculé de 3,8%. 34 euros après la présentation de son plan de reconquête qui n'a pas convaincu le marché pour le moment. Et puis Carrefour a reperdu 2,8%, 16,61 €, alors que le gouvernement s'oppose de plus en plus vigoureusement au rapprochement avec le Canadien Couche-Tard. Les banques aussi sont en baisse, assez nette, entre 2 et 3% de perdu sur la Société Générale, 17,33 €, et le Crédit Agricole qui revient vers les 10 euros ce soir, 10,17 € à la clôture.
Exception du jour, Didier, l'équipementier automobile Valeo qui a terminé en hausse.
Oui, petite hausse, hein, 1,2%. C'est vrai que ça tranche avec les baisses dans le secteur des équipementiers. Valeo remonte donc à 30,92 €. Le groupe a annoncé des données financières très solides, très résistantes, malgré le contexte difficile pour le second semestre, supérieur aux attentes du marché. Valeo a enregistré une croissance de 5,3% de son chiffre d'affaires de première monte à 4,2 milliards d'euros pour un total de chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros donc sur le semestre. La marge d'EBITDA est supérieure aux attentes à plus de 13,5% de chiffre d'affaires. On attendait un petit peu plus de 12%, donc de très bons chiffres, hein, dans un contexte difficile. Valeo en profite, plus 1,2% ce soir, 30,92 € à la clôture. Sur les autres places financières, ça baisse partout et ça baisse nettement. Sur le DAX à Francfort, moins 1,4%, baisse d'1,7% à Madrid. Bruxelles, moins 0,6%, Amsterdam, moins 0,7%, Londres, moins 1%. Et donc le CAC 40 en baisse d'1,22%, 5611 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com et à lundi. 22h23 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Philippe Wächter.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes chef économiste chez Natixis et si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que nous avons tout simplement été très étonnés par un chiffre. Record de création d'entreprises en 2020. Quand on se rappelle l'année que l'on a passée, on pourrait se dire mais comment c'est possible? Du coup, ma première question va être très simple et va être celle-ci. Comment ça s'explique?
Ça s'explique tout simplement parce qu'on a vu dans certains secteurs, dans les transports notamment, un nombre de créations d'entreprises tout à fait important. Quand on regarde le détail entre entreprises type société et entreprises individuelles, eh bien on s'aperçoit que les entreprises type société n'ont pas progressé durant l'année 2020. Par contre, les entreprises individuelles ont augmenté très fortement, notamment dans le secteur des transports. Toutes les livraisons qui ont pu être faites pour les dîners, etc., ont été associées à cette création d'entreprises, chacun trouvant dans ce type de création d'entreprise une façon de d'augmenter d'augmenter l'emploi et donc sauver sa propre situation.
Voilà, il y a deux points importants dans ce que vous dites. Effectivement, c'est une photographie de ce qui s'est réellement passé du coup. Hein. C'est-à-dire que s'il y a eu beaucoup de création d'entreprises, c'est parce qu'il y a eu une envolée au niveau du transport de marchandises. Vous le disiez, le click and collect pour les restaurants, mais sûrement plus largement. Et puis vous le disiez, de toutes petites sociétés, des sociétés individuelles. On sait aussi, en temps de crise, que souvent on crée son emploi en créant son entreprise. Est-ce qu'on en est déjà là ?
Oui, très clairement, on a été dans cette situation parce que quand on regarde le marché du travail en 2020, on a tous ceux qui ont bénéficié des procédures de chômage partiel, mais on a vu aussi que beaucoup de personnes qui étaient en travail temporaire, qui étaient des étudiants ou des auto-entrepreneurs qui sont retrouvés en grande difficulté et qui ont dû trouver des solutions pour faire face à cette situation très, très particulière. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà observé au moment de la grande crise financière de 2008-2009, notamment dans un pays comme l'Angleterre, où les auto-entrepreneurs avaient progressé, le nombre d'auto-entrepreneurs avait progressé très rapidement. L'idée étant de je ne trouve pas de job comme ça spontanément, donc j'essaie de me prendre en charge et je vais dans les secteurs qui sont les plus porteurs. Et là, effectivement, comme vous l'indiquez, tout ce qui touche...
Parce que c'est vrai que pour donner là aussi un autre chiffre, hein, le secteur donc transport et entreposage qui a connu la plus forte hausse de plus de 20% tiré justement par ce boom des livraisons. Mais il y a d'autres données qui quand même m'ont un petit peu impressionné. Une hausse de création d'entreprises de plus de 5% dans l'industrie. Alors que l'industrie a été à l'arrêt quand même une bonne partie du temps, qu'on sait qu'en ce moment c'est en partie compliqué pour des pans entiers de l'industrie.
Oui, mais c'est justement la particularité de cette crise. C'est que si elle a été affectée très fortement au printemps dernier, au moment du confinement total de l'économie française, on constate, et les chiffres de l'INSEE sont très clairs là-dessus, sur la fin d'année, les données sur l'activité industrielle, sur l'activité manufacturière, ont été plutôt solides et donc et peu affectées par le confinement du mois de novembre. En d'autres termes, on est dans une crise de services, on est beaucoup moins dans une crise industrielle. Les indicateurs industriels sont plutôt forts en France et dans d'autres pays de la zone euro. Et donc, on voit bien que dans ce secteur particulier, il y a des opportunités qui continuent d'exister et ce qui explique ce boom dans ce secteur bien spécifique.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'augmentation des faillites en France, qui montre d'une certaine manière que les dispositifs qui ont été mis en place pour soutenir les entrepreneurs sont bien calibrés. On peut le dire comme ça, Philippe Wechter, je rappelle que vous êtes chef économiste chez Natixis.
Oui, elles ont été bien mises en place, bien utilisées aussi. Et donc, ça a permis de ne pas avoir d'ajustement trop brutal au moment où, effectivement, on a été en confinement, que ce soit au printemps, que ce soit à l'automne. On voit bien que toutes les mesures qui ont été prises ont joué un rôle de filet de sécurité finalement très serré et éviter ce type de risque. Ça, c'est quelque chose de très positif. Et on voit bien
avec
que,
le grand danger de se dire que quand on va lever tous ces filets sociaux, ça va être extrêmement compliqué. On pense principalement à l'activité partielle. Aujourd'hui, de nombreux chefs d'entreprise ne licencient pas parce qu'ils sont aidés. Mais quid quand ce ne sera plus le cas ou plus dans cette mesure, hein.
Bien sûr, c'est un des grands risques. C'est pour ça que Bruno Le Maire a pris la décision de prolonger de reporter le remboursement des PGE.
Les prêts garantis par l'État, oui.
Oui, les prêts garantis par l'État, parce que l'horizon était juin prochain. Et finalement, on voit bien qu'on est dans une phase d'incertitude toujours très marquée sur le plan sanitaire. Et donc, pour éviter de créer davantage d'incertitudes en souhaitant des remboursements assez rapidement, on prolonge d'un an et puis on verra à ce moment-là, parce que on ne sait pas très bien quelle allure exactement aura la crise dans les prochains mois. Et ça permet de limiter le risque de faillite au cours des prochains mois.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. Philippe Vechter, chef économiste chez Natixis. Nous, on se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Et comme promis, on termine avec le foot, direction le stade de la Mosson, où il y a beaucoup de spectacles entre Montpellier et l'AS Monaco, Romain Boselli.
Ah oui, effectivement, on joue la 71e minute ici à la Mosson. 3-2 désormais pour Monaco. Le doublé de Ben Yedder avec peut-être le 4e but pour l'AS Monaco. C'est sauvé sur la ligne. On en reste à 3-2 dans cette partie. Et les Montpelliérains qui reviennent à 3-2 désormais grâce à Delors et Wahi. Et les Montpelliérains qui ont espoir dans ces derniers instants de la partie. Il reste un petit peu plus de 20 minutes à jouer.
Merci beaucoup Romain Boselli en direct de Montpellier pour Europe 1. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous?
Ça va, je vous remercie, et vous?
Très très bien. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc dès maintenant.
Et on vous retrouve à 23h pour les prochaines infos.
A tout de suite.